Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur Fréquence Diagonale. Aujourd'hui, nouvelle étape dans notre Tour de France du jeu d'échecs, puisqu'on s'arrête cette fois dans la Ligue du Pays de Loire, avec son président Florian. Florian Rapin, bonjour Florian.
Bonjour Stéphane.
Alors, président, depuis quand? C'est quoi ton parcours?
Alors en fait, je suis investi au sein de la Ligue depuis 2006 et j'en suis le président à la suite de Lionel Maisonneuve depuis juin 2012, donc ça va faire 2 ans dans quelques semaines.
D'accord, et donc pour 2 années à suivre.
Voilà, absolument.
D'accord. Et toi, alors toi-même, tu es joueur d'échecs, depuis quand? Enfin, quel est ton petit parcours de joueur? Est-ce que tu peux dire quelques mots?
Alors j'ai actuellement 30 ans et j'ai commencé en 1990 à l'âge de 6 ans. À jouer aux échecs. J'ai en tout parcouru 3 clubs dans ma vie. Le club de la Régie Renault au Mans, le club de Rue Audin juste à côté du Mans, et puis quand je suis revenu en Maine-et-Loire, qui est l'origine de ma famille, j'ai souhaité bien contribuer, comme beaucoup, à la création de clubs, plutôt que d'aller dans un club qui était en l'occurrence l'Échiquier Angevin, pour moi le plus près. Eh bien, j'ai contribuer à créer un club dans ma petite commune à côté d'Angers.
D'accord. Et ton niveau Elo aujourd'hui, c'est à peu près quoi?
Alors, dernièrement, j'étais 18-26, je crois, FID. Mon maxi, c'est 2030, à la faveur d'une belle 10e place dans l'Open B au championnat de France en 2002 à Val d'Isère.
Bah, une belle perf, hein. Atteindre un classement de demi, c'est déjà tout à fait exceptionnel en France, hein, parce qu'il faut rappeler que la moyenne, hein, du classement Elo, on le dit, on le rappelle souvent, mais c'est aux alentours de 1650, et donc déjà au-dessus c'est bien, et puis alors à 2000, c'est déjà, on est déjà, disons, un joueur qui sait à peu près bien jouer aux échecs, on peut dire. Hein.
Voilà, c'est un grand bonheur.
Voilà, donc très bien. Donc alors, cette Ligue Pays de Loire, il faut que tu nous la présentes un peu. Alors, peut-être géographiquement, alors le Pays de Loire, c'est quoi exactement? C'est que ça regroupe quelle partie, quel département?
Alors les Pays de la Loire à l'heure actuelle, donc ce sont 5 départements. On va dire que par rapport aux régions habituelles françaises, on n'est pas sur une logique nord-sud, mais plutôt sur une logique ouest-est. L'ouest matérialisé par la Loire-Atlantique et la Vendée, qui sont sur la côte atlantique, et puis des départements intérieurs privés d'accès à la mer, que sont le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Sarthe.
D'accord. Ah, donc avec comme grande ville, forcément on pense à Nantes. Et puis.
Absolument. On a Nantes, on a Angers, et puis on a Le Mans aussi, qui est une ville qui connaît un beau développement par sa proximité avec Paris, puisque c'est à 50 minutes de TGV.
D'accord. Donc ça, voilà. Donc d'accord. Donc on voit ces 5 départements. Donc ces grandes villes. Alors maintenant, au niveau de l'histoire de cette ligue, est-ce que tu peux nous dire quelques mots peut-être? Quand c'est qu'elle a été créée? Est-ce que tu sais ces dates-là?
Alors pour la création de la ligue, si je dis pas de bêtises, la création a été faite en 1967 de mémoire, puisqu'on a dû fêter les 45 ans de la ligue peu de temps après mon élection en 2012. Voilà, on est une ligue assez ancienne. Dans l'aspect ligue, j'inclus aussi l'aspect des comités départementaux, avec ce premier comité départemental que fut celui de la Sarthe, sous l'impulsion de Jacques Lambert, alors président de la Fédération française des échecs.
Ah oui, Jacques Lambert, une grande figure, je ne savais pas qu'il était du Pays de la Loire, une grande figure effectivement du jeu d'échecs en France, qui a été un des présidents qui ont marqué, hein, le développement du jeu. Hein. Ça, c'est... Tu l'as connu toi-même ou...
Alors, pour la petite histoire, effectivement, je devais avoir 8-9 ans. Jacques Lambert, avec Patrice Henriot, alors président du comité départemental du jeu d'échecs de la Sarthe, ils ont lancé un stage de formation, de perfectionnement pour les jeunes, animé par un maître international arménien à l'époque, Van Voskanian. Et donc ils ont organisé ce stage, et moi j'ai beaucoup appris à ce stage, et j'ai gagné mon premier tournoi rapide juste après ce stage, dans la même ville, le Château du Loir. Et je dirais presque, si je fais encore des échecs aujourd'hui, c'est un peu grâce et beaucoup grâce à Jacques Lambert et aussi Patrice Henriot.
Ah oui, donc des grands monsieur qui ont créé beaucoup de vocations, hein, et vocations qui aujourd'hui deviennent comme toi ben, un peu des cadres hein, du jeu d'échecs en France, qui s'occupent un peu d'essayer d'organiser tout ça, ce qui demande effectivement du travail hein, et du suivi. alors, donc, d'accord, donc pour l'histoire, on a des éléments pour ce pilier-là. Alors, maintenant, peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que tu peux nous dire un mot sur le nombre de licenciés de la Ligue, le nombre de joueurs qui ont leur licence?
Alors, actuellement, si je regarde les chiffres de la Fédération française, au 21 mai, nous sommes 3015 licenciés, licences A et B confondues. On est légèrement en recul par rapport à l'année précédente. Toutefois, je dirais que le cap symbolique des 3000 licenciés a été franchi sous la présidence de Lionel Maisonneuve hein, dans l'année 2012. C'est très important pour nous ce cap des 3000 licenciés. Ça traduit tout le travail qu'avait pu faire Lionel Maisonneuve pour impulser une réelle dynamique pour notre jeu au niveau de la région des Pays de la Loire. On s'attache à maintenir ce cap de licenciés au-dessus des 3000 licenciés. On est passé à 3300 l'an dernier. Là, cette année, on sera peut-être un petit peu moins, mais on conserve une belle dynamique et on est la 3e, 4e Ligue de France.
D'accord. Alors, c'est licencié, mais sûr, ils jouent dans des clubs. Et alors, donc, je suppose qu'il y a des. Bon, il doit y avoir pas mal de clubs dans la Ligue. Alors, peut-être tu peux nous citer, peut-être nous donner le nombre de clubs et puis peut-être nous citer les clubs les qui comptent le plus, qui sont les plus, disons, les plus importants ou ceux qui ont le plus d'activités, peut-être.
Alors, on a à peu près une cinquantaine de clubs, au rythme d'une à deux créations par an, et en gros, malheureusement, parce que ça arrive, d'une disparition tous les trois ans. Donc, on a un nombre de clubs croissant. Les plus connus, ce sont notamment ceux qui ont une politique en faveur des jeunes assez présente. Je pense notamment au Mans, qui joue dans le top jeune actuellement, et puis à Sautron, qui va retrouver le top jeune l'an prochain. On a effectivement, donc le Mans c'est en Sarthe, Sautron c'est en Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique et la Sarthe sont les deux piliers du développement du jeu d'échecs historique en Pays de la Loire. On a deux autres départements qui connaissent des beaux succès, la Vendée, avec notamment le club de la Bruffière animé par Yannick Berthelot, qui est très très dynamique, et puis la Mayenne, qui sous l'impulsion de son président de comité départemental, Raji Zouari, a lancé de belles actions pour le rayonnement de notre jeu et gagne en licencié, et organisera prochainement les championnats de France collège en juin prochain.
D'accord. Alors, paradoxalement, par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure sur les villes, hein, tu nous as parlé de Nantes, Angers... tu ne cites pas de clubs de ces villes-là. Les grandes villes n'ont pas de... Enfin, je suppose qu'ils ont des clubs, mais ils n'ont pas les clubs les plus importants.
Alors, effectivement, quand je suis arrivé à la présidence, j'ai tenu à réaliser un petit document, parce que je suis géographe de formation. J'ai contribué à la rédaction d'un atlas du jeu d'échecs en Pays de la Loire. Et c'est vrai qu'on remarque que les villes importantes, Angers, Nantes notamment, pour les deux plus grandes, ne se caractérise pas forcément par une surreprésentation des clubs d'échecs. Alors, Nantes, pour le cas, c'est parce qu'il y a notamment deux clubs à Nantes, le Cercle d'échecs de Nantes et puis Nantes Jeunesse Échecs. Donc forcément, ça fractionne un peu la dynamique dans une métropole de cette taille. Et puis, pour Angers, il y a eu une phase un peu descendante. Angers retrouve des capacités aujourd'hui. Ils ont organisé dernièrement leur Open d'échecs et ils ont eu près de 100 participants, ce qui était magnifique. Ils étaient tombés à une cinquantaine de participants il y a peu. Voilà, il y a des dynamiques qui se recréent, qui évoluent. Mais c'est vrai qu'on est historiquement construit sur un pilier Loire-Atlantique, mais en périurbain, Sautron, Sucé-sur-Erdre, Carquefou, et puis Le Mans, là, pour le coup, qui est une ville assez importante dans la région.
D'accord. Alors, on va revenir hein, sur ces clubs en deuxième partie, notamment bah, parce qu'on va parler, bien sûr, de ce qui nous intéresse aussi sur Fréquence Diagonale, c'est-à-dire les grands tournois de la saison hein, en Pays de Loire. On va parler des Open, éventuellement des rapides, voire, pourquoi pas, des Blitz. On verra hein, ce qui existe ou ce qui n'existe pas. Bien sûr, mais alors avant on va parler d'un des thèmes aussi hein, qu'on aborde dans le podcast qui nous intéresse aussi parce que sur Fréquence Diagonale on est forcément très versé sur Internet puisqu'on est on se diffuse sur Internet et on est très intéressé par tout ce qui se fait sur Internet. Alors moi j'ai regardé le site Internet hein, du Pays de la Loire. Alors c'est un site qui est bien référencé hein, sur le site de la Fédération française d'échecs. Alors je suis très étonné par l'adresse parce que tu te retrouves sur un site qui est sur google.com en fait.
Absolument. Alors pour la petite histoire, le premier dossier que j'ai eu à traiter en prenant la présidence, c'est la problématique d'un site internet qui existait déjà pour la Ligue des Échecs des Pays de la Loire et qui avait été victime d'attaques, d'un virus, donc il a fallu refondre le site. J'ai lancé une petite consultation au sein du comité directeur pour savoir ce qu'on choisissait comme option et s'est imposé la solution du Google Site parce que c'est un gestionnaire de contenu participatif et qui permet éventuellement à plusieurs intervenants de proposer du contenu assez facilement. Donc on l'a choisi pour ses facilités d'administration plus que par son rendu graphique. C'est vrai qu'il n'y a pas d'animation, il n'y a pas forcément énormément de photos, mais c'est avant tout un site d'information plutôt qu'un site d'animation.
D'accord. Alors ce site-là de la Ligue Pays de la Loire, est-ce que vous avez regardé aussi ce que faisaient les autres ligues? Parce que alors pour l'instant, vu qu'on commence à faire un tour, on a déjà vu déjà plusieurs ligues et on se rend compte que les ligues mettent en place des CMS, ce qu'ils appellent des Content Management Systems, c'est-à-dire la même nécessité fonctionnelle hein, que ce site-là, que votre site, mais ils utilisent WordPress ou Joomla, hein, c'est même Joomla qui apparemment est le plus utilisé, bon, mais WordPress ça serait très bien aussi, ce sont des logiciels libres qu'on peut installer, et qui sur lequel on a la main en totalité et on peut rajouter des plugins et tout un tas d'ajouts supplémentaires. Mais un autre point aussi, donc je voulais savoir si vous avez envisagé cette possibilité là qui est peut-être un peu plus jolie au final, un peu plus paramétrable aussi peut-être, avec toujours la possibilité de mise à jour participative, mais peut-être mieux pensée peut-être que site google.com. Et un autre point, c'est votre adresse, parce que vous avez une adresse là qui fait en quelque sorte la promotion d'un moteur de recherche, puisque dans l'adresse on retrouve ce nom. Est-ce que vous avez pensé à avoir une adresse à vous en propre, de type par exemple, je sais pas, www.liguepaysdelaloireechecs.fr ou ce genre de choses?
Alors en fait, historiquement, on avait pour adresse ligereechec.fr. Ligère, pourquoi? Parce que la gentillesse des habitants des Pays de la Loire, ce sont les Ligériens. Donc on avait fait cette contraction ligère et échec pour faire référence aux joueurs en Pays de la Loire. La question de Joomla, effectivement, c'est un CMS extrêmement performant. Moi, je l'utilise à titre personnel pour mon club. Les membres du comité directeur de la Ligue ont fait un autre choix qui était celui du Google Site. Voilà, bon, c'est l'histoire qui est comme ça. Effectivement, il est peut-être moins esthétique. Après, nous, ce qu'on recherche, c'est l'efficacité de l'information. On est très en retrait par rapport à une Ligue voisine, peut-être concurrente, mais néanmoins amie, qui est la Ligue de Bretagne, qui a développé de nombreux outils informatiques très puissants qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Malheureusement, on n'a pas, nous, en interne, les compétences nécessaires pour arriver à de telles réussites.
D'accord. Et pour le nom, alors pourquoi pas faire pointer votre adresse vers votre site, alors plutôt que d'avoir une adresse qui n'est pas la vôtre dans le...
Alors tout simplement parce que bon, il y a un petit souci d'économie dans un premier temps. C'est vrai que on est une ligue plutôt en pointe sur la sobriété de notre administration. On a réduit de 1000 euros hein, notre fonctionnement administratif, ne serait-ce que par la mise en place de réunions de comité directeur par Skype, par exemple, ce qui évite tout un tas de frais, de remboursement kilométrique, choses comme ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas ressenti le besoin d'avoir un nom de domaine qui pointe plus facilement, partant du principe que aujourd'hui, quand on saisit une adresse internet, on va la chercher soit dans ses favoris, soit on y arrive depuis un site. En bref, on ne saisit plus l'adresse dans son entièreté. On recherche dans Google. Donc finalement, on tape l'IGR échec dans Google et on tombe sur le site de la Ligue des Chefs des Pays de la Loire.
D'accord. Bon, mais c'est un choix hein, qui sans doute sera à rediscuter plus tard lors de la prochaine réflexion sur l'évolution de vos moyens informatiques. En tout cas, c'est bien, il y a un site, il est complet, hein, ça je peux le dire, hein, parce que j'utilise dessus, là je le regarde, et c'est vrai qu'il y a, il y a à peu près tout ce qu'on peut espérer trouver hein, sur un site de ligue, un calendrier, les annonces de tournois, les compétitions ligue qui sont annoncées, une page spéciale pour les jeunes, enfin même tout un menu spécial pour les jeunes, pour les féminines aussi. Hein, donc apparemment il y a une attention spéciale qui est faite pour les féminines, on y reviendra. Les scolaires, donc voilà, donc il y a vraiment tout. Hein. Arbitrage aussi, voilà, donc c'est complet, quoi. On peut dire qu'il manque rien. Hein. Ça paraît assez net. Alors tu me disais tu es devenu président en 2012 hein, de cette ligue. Alors est-ce que tu peux nous dire peut-être avant qu'on revienne, qu'on fasse notre première pause musicale et qu'en deuxième partie on rentre un peu plus dans les tournois, est-ce que tu peux nous dire ton objectif politique? Est-ce que tu t'es donné des objectifs à remplir dans les années qui viennent, de transformer un certain nombre de choses ou de créer des événements ou je ne sais quoi?
Alors, le contexte de mon arrivée en tant que président avec donc une équipe à la tête de la Ligue, c'est celui, en fait, d'un président qui aura beaucoup marqué la Ligue, Lionel Maisonneuve. Il l'a marqué parce que il a structuré de manière fondamentale la Ligue. Tous nos règlements sont à jour, hyper carrés. Il a développé de très bonnes relations avec nos partenaires institutionnels que sont le Conseil Régional des Pays de la Loire et la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports des Pays de la Loire. Et lorsqu'il a voulu laisser la main en 2011-2012, malheureusement, personne n'était volontaire pour reprendre le flambeau. Et c'est vrai que ça fait toujours un peu peur de reprendre une institution en excellent état de marche, portée par une dynamique de licenciés. Et on a toujours peur de faire des bêtises et de mal faire. Moi, j'ai préféré, parce que j'avais du temps à cette époque pour m'en occuper, me dire s'il y a besoin de quelqu'un pour continuer à animer cette ligue, ben je veux bien être celui-ci. C'était pas forcément mon objectif au départ, mais je me considère des fois un peu président par défaut, mais j'ai la chance d'avoir une excellente équipe à mes côtés. Lorsqu'on a pris la suite de Lionel, moi, à titre personnel, mon premier attachement, c'était de garantir les soutiens des partenaires institutionnels. On devait renégocier la convention quadriennale avec la région, on devait renégocier les accords et des subventions avec Jeunesse et Sport. En ce sens, la constitution de l'Atlas du jeu d'échecs en Pays de la Loire a été un excellent outil et très apprécié de nos partenaires, au point que la direction régionale de Jeunesse et Sport propose qu'il soit présenté et mis à disposition des autres ligues lors d'une prochaine table ronde en décembre de 2014 ou janvier 2015 pour justement rendre compte de l'évolution des dynamiques qu'on rencontre sur les territoires du développement de nos disciplines.
D'accord.
Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'était de faire le bilan, d'évaluer et de reconfigurer la politique de la formation des jeunes. Car cette politique sectorielle est très importante pour nous. Et j'ai eu la chance d'avoir un directeur des jeunes qui s'est mis à plein dedans et qui a restructuré le secteur jeune pour lui donner une véritable cohérence entre ce que font les départements, les clubs, ce que peut faire la Ligue et en voir l'évolution. Voilà les gros chantiers qu'on a eus. Et un dernier chantier duquel je suis très fier, c'est la politique du handicap. On a beaucoup discuté avec Jeunesse et Sport, un petit peu aussi avec la région. C'est tout bête, on s'est calqué sur ce que fait la fédération, qui est très bien d'avoir une véritable ambition en matière de handicap. C'est vrai que aux échecs, on pêche un peu par prétention en disant que bon, mais les personnes handicapées, on les intègre par nature bien dans notre jeu puisque elles jouent sur un pied d'égalité avec les valides. On ne fait pas de compétition forcément à part et autres. Nous, on a souhaité au niveau de la ligue, par exemple, produire des jeux d'échecs adaptés. On s'est rendu compte que ces jeux, on les importait des Pays-Bas. J'ai rien contre les Pays-Bas, mais on a eu à cœur de chercher une production en France et on a réussi à trouver une production.
D'accord.
Pour partie des pièces. Enfin, les pièces sont produites en France. Les jeux sont assemblés et adaptés en Sarthe, donc dans notre ligue, et pour un coût moindre que par rapport aux Pays-Bas. Et ça, en Pays de la Loire, on en est très fiers.
D'accord. Donc il y a une dimension aussi là de recherche de la meilleure solution économique, hein, et pas que de la meilleure solution technique. Donc bon, mais c'est très intéressant ce que tu viens de nous dire là sur ce sujet des handicapés, avec une vraie démarche qui a dû vous prendre un minimum de temps, je suppose, et d'efforts. Donc très bien. Mais écoute, on va faire une première pause, Florian, si tu veux bien, hein, dans ce podcast. Fréquence diagonale, et puis on se retrouve juste après où là on va aborder, eh bien, un peu plus disons l'aspect jeu, hein, au niveau des tournois, un peu pour le calendrier de la ligue aussi, les grands événements qui comptent, et puis au-delà peut-être aussi vers les championnats de France, notamment vers les jeunes, pour savoir comment la ligue se comporte et les joueurs de Pays de Loire en général. Donc on se retrouve juste après une première pause musicale. Thank you. Et nous voici de retour après donc cette pause musicale dans ce podcast Fréquence Diagonale spécial Pays de la Loire avec Florian Rapin, président de cette Ligue Pays de Loire. Alors Florian, on a vu dans cette première partie, qu'on avait vu un peu tout simplement la position géographique et un peu historique de cette Ligue, où tu nous as un peu donc fait ce portrait, ainsi que sa répartition en termes de clubs, son activité en termes de clubs, notamment tu nous as parlé de celui de Sautron, qui est connu bien sûr en France pour avoir fait de très bons résultats, et aussi de ta politique où tu prends donc la suite, et tu nous as expliqué, si on peut résumer ça comme ça, que tu consolides le travail de ton prédécesseur qui avait déjà fait beaucoup, je crois qu'on peut dire ça comme ça.
Absolument.
Voilà. Donc alors, maintenant, on va parler un peu plus dans la dynamique de la Ligue, de son calendrier annuel, de ses événements récurrents. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, peut-être d'abord, les événements organisés par les clubs eux-mêmes, les tournois les plus importants, ceux qui comptent le plus. Et puis aussi, bien sûr, je crois que la Ligue elle-même organise des événements. Donc, alors, nous situer ces événements à la fois, d'abord en termes, puisqu'on sait bien aux échecs, on a plusieurs cadences, donc de préciser la cadence aussi, la durée de ces événements, si tu connais bien, et puis aussi à peu près au moins la période de la saison où elles se déroulent, même si on n'a pas la date exacte, mais au moins qu'on puisse le situer comme ça dans l'année.
Alors, s'il y a un incontournable en Pays de la Loire, c'est forcément l'Open du Mans. Je ne dis pas ça parce que je suis natif du Mans et je suis chauvin. Je suis admiratif, bien entendu, du travail de Jacques Lambert là-dessus, mais force est de constater que c'est un Open merveilleux, tant dans ses qualités que met en œuvre Jacques pour accueillir au mieux les joueurs d'échecs. C'est aussi parce qu'il y a plus de 200 joueurs qui viennent tous les ans désormais pour disputer ce tournoi qui est en cadence lente. De mémoire, ça doit être 1h40 plus 30 secondes par coup pendant 40 coups, et puis 30 minutes plus 30 secondes par coup pour le reste de la partie. Moi, étant enfant, c'est là où j'ai vu des grands joueurs comme Éric Prier, par exemple, venir se battre sur l'échiquier. Donc ça, c'est vraiment le tournoi phare organisé par le comité départemental du jeu d'échecs de la SA tous les ans, du 26 au 30 décembre, au Mans, 50 minutes de TGV seulement. Voilà, ça c'est vraiment l'incontournable en Pays de la Loire. Quasiment au même moment, et ça fait de moi un président de Ligue heureux parce que finalement je constate que ces deux événements ne se font pas concurrence, c'est l'Open de Nantes qui se déroule du 27 au 30 décembre tous les ans. Et là on a une centaine de joueurs qui viennent aussi disputer des parties dans un Open là aussi homologué FID. Donc ça c'est, je dirais, la période charnière de la fin d'année civile. Un autre tournoi qui me tient à cœur parce que je le trouve original, c'est le festival de tournois fermés de Cholet, ville du sud du Maine-et-Loire, quasiment au centre de la région. Club très sympa de Cholet et qui s'est inspiré de ce qui se fait à Nancy et ailleurs pour proposer cette compétition très exigeante, et c'est là où on voit que notre discipline est réellement un sport, où on a l'impression de jouer des parties comme les meilleurs joueurs mondiaux dans des tournois fermés, très exigeants, avec des niveaux serrés. Voilà, c'est ça que je recommande. En général, c'est dans la deuxième semaine des vacances de printemps, des vacances de février, pardon, dans notre région.
D'accord, donc là ça en fait trois, il y a d'autres, peut-être même des rapides qui comptent un peu dans la saison, puisque ça s'est développé ces dernières années, les tournois rapides peut-être.
Alors, le tournoi rapide incontournable, c'est aussi celui d'Aigrefeuille, qui réunit régulièrement pas loin près de 300 joueurs. C'est sans doute le plus gros tournoi rapide, l'un des plus gros tournois rapides de France, et clairement le plus gros de la région, donc effectivement... Là, Aigrefeuille est un excellent tournoi. La Ligue, pour elle-même, organise
c'est
la Ligue de parties rapides.
Tu nous donnes pas tu nous as pas donné la date, peut-être, de ce rapide. Il a lieu quand, là, ce grand? Parce que 300 joueurs en rapide, c'est un gros tournoi, parce que c'est...
Ah oui, c'est impressionnant. En général, c'est en février, donc à Aigrefeuille, en Loire-Atlantique, donc pas très loin de Nantes. Et puis pour le championnat de ligue de partie rapide en Pays de la Loire, c'est en général le premier week-end de juin. Donc là, ce sera le 1er juin cette année.
D'accord, donc on aura publié notre fréquence diagonale cette année, juste avant, pour faire la promotion hein, de ce rapide de la ligue. Rapide de la ligue qui existe depuis longtemps, qui tourne bien. Enfin, comment il s'organise celui-là?
Alors, il change de lieu tous les ans. Cette année, il sera à Sucé-sur-Erdre, donc en Loire-Atlantique, tout près de Nantes. Du coup, effectivement, on est sur du 9 rondes, 12 minutes plus 3 secondes, classique, relativement. Et bon, il y a une belle dotation pour ce tournoi. Et du coup, effectivement, on essaye de le faire changer de département tous les ans. Il réunit les bonnes années, près de 150 joueurs.
D'accord, ben oui, c'est déjà un beau tournoi rapide, hein, qui est dans la moyenne haute hein, des tournois rapides en France. Donc c'est pas un petit tournoi non plus. Et y a d'autres tournois rapides comme ça le long de la saison, ou c'est les deux grands événements qui la marquent?
Alors, traditionnellement, on a des beaux tournois rapides partout sur le territoire, qui vont réunir une centaine de joueurs. Je pense notamment à la Sarthe, qui a développé depuis très longtemps un circuit intitulé le Conseil Général, enfin en partenariat avec le Conseil Général de la Sarthe, qui fonctionne sous la forme d'un Grand Prix, un peu comme en Formule 1, où chaque joueur, en fonction de ses résultats, accumule des points par catégorie et puis au classement général, le premier à 13 points, le deuxième 10 points, etc. Et puis chaque participant a au moins un point. Et puis à la fin de l'année, on fait le total et on attribue des prix au classement général là-dessus. Ça marche très bien et en général, on voit dans les clubs de Sarthe qui organisent ce tournoi, oui, une belle participation d'une centaine de joueurs à peu près.
D'accord. Alors, on a parlé des Open. Alors peut-être on y reviendra sur les Open pour parler. On va y revenir tout de suite d'ailleurs. Ce qui m'a étonné, c'est donc tu nous as parlé de ces deux Open importants du Mans et de Nantes, et tu nous donnes pas d'Open d'été. Il n'y aurait pas d'Open d'été en Pays de Loire?
Alors, il y a quelques événements en été. Alors, je veux pas me fâcher avec Sautron, parce que en y repensant, j'ai oublié évidemment les tournois qu'organise Sautron, et il y en a en été. C'est vrai que le club d'échecs de Sautron a de longue date organisé de nombreux Open. De mémoire, il y en a un, le principal, il est aux alentours de la Toussaint. Je sais qu'ils organisent des choses à l'été. Et puis dernièrement, ils ont organisé un Open, réservé, enfin dédié aux féminines. Donc c'est un club là aussi très dynamique. Mais c'est vrai que l'été, on a aussi des événements, alors un peu de moindre envergure, mais qui réunissent toujours une petite centaine de participants. On a Pornic, en général les trois premiers jours sur un week-end d'août. On a l'Open de Gorges aux alentours du 14 juillet. Et puis cette année, on va avoir un nouvel événement. C'est un Open international organisé avec ambition en Vendée, au Sable d'Olonne. C'est la première édition de ce tournoi et donc je recommande chaudement la participation à ce tournoi. Donc c'est Thierry Flachet qui organise ce tournoi au Sable d'Olonne. Et du coup, ce sera à partir du 12 juillet jusqu'au vendredi 18 juillet.
D'accord. Alors, donc là, on a vu, bon, et Open, les Rapides. Alors, et peut-être maintenant que ça se démocratise aussi, puisqu'on a maintenant même un circuit, une course, ils appellent ça une course aussi nationale, c'est les tournois de Blitz. Est-ce que ça prend dans le Pays de Loire, les tournois de Blitz, comptant pour maintenant le nouveau, hein, c'est assez nouveau quand même, on peut dire encore nouveau aujourd'hui, le nouveau classement national Elo Blitz, hein, puisque donc maintenant on a trois Elo, hein, un Elo de partie lente, un Elo de partie rapide, et désormais donc cet Elo de partie Blitz. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce développement du jeu Blitz dans la région? Est-ce qu'il se fait? Est-ce qu'il est dynamique?
Alors, absolument. Si je consulte le classement course à la fin de ce challenge, je trouve une belle cinquième place pour le club de Carquefou Échecs, juste à côté de Nantes, qui aura organisé 26 tournois et réuni 315 joueurs au total. Étant chauvin et étant président du club d'échecs des Basses-Vallées en juin, je ne vais pas ignorer mon club. On aura organisé donc 23 tournois pour un total de 160 joueurs. On fait partie de ces deux clubs en France qui, évolution du règlement faisant, ont obtenu un qualifié pour la finale parce qu'on a organisé plus de 20 tournois, mais on n'a pas eu de qualifié in fine pour la finale bis. Donc comme on a fait un bel effort, eh bien, la Fédération française, et je l'en remercie, nous attribue un qualifié. Il y a aussi le club d'échecs de Sautron qui aura organisé 7 tournois et réunissant 112 joueurs et qui termine là aussi dans les 20 premiers en France des organisateurs de tournois. Donc ça se développe bien, effectivement, la Ligue d'échecs des Pays de la Loire n'est pas en retrait sur cette nouvelle dimension du jeu d'échecs.
D'accord, donc beaucoup de blitz. Alors là, bien sûr, il y a sans doute beaucoup de dates, hein, puisque c'est des tournois qu'on peut organiser en une seule soirée, très rapidement, et donc avec donc au final, beaucoup de joueurs impliqués, jusqu'à 300 par club, c'est tout à fait considérable. Alors, maintenant, on va arriver à nos pages un peu spéciales. Tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu, puisque tu nous as parlé des féminines, hein, je crois que... Donc il faut parler à la fois des féminines et puis on terminera peut-être par les jeunes et notamment le calendrier jeune spécial. Mais alors donc les féminines, tu nous as parlé d'un tournoi spécial féminine et est-ce qu'il y a des actions spéciales féminines dans votre ligue?
Alors comme toutes les ligues, nous organisons bien entendu à la fois la Nationale 2 féminine, donc qui est qualificative pour l'Interligue féminin. Cette année, du reste, nos équipes ligériennes se sont très bien comportées puisqu'on aura deux équipes nouvelles en National 1 féminine l'an prochain. Ces deux équipes sont l'Échiquier Nazérien et puis La Roche-sur-Yon. Donc on est très heureux. Je crois qu'ils rejoignent, si je dis pas de bêtises, Sautron en National 1. Donc ça c'est une fierté parce que c'est une réussite. Et puis on a aussi le championnat de ligue de partie rapide féminin. Je rappelle au titre de la politique féminine que c'est quelque part le seul événement qui permet une qualification, qui offre une qualification pour un championnat final de France. C'est un bel événement. Cette année, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de participation. En général, on a eu une participation entre 20 et 30 féminines. Là, cette année, ça a été extrêmement réduit pour des raisons diverses. Bon, on espère retrouver un volant de participation important. Lorsqu'on avait fait l'Atlas du jeu d'échecs et des Pays de la Loire, on s'était rendu compte qu'on avait connu une évolution du nombre de pratiquantes chez les féminines. Légèrement supérieure à la moyenne nationale, mais globalement on était dans les mêmes dynamiques que le niveau national. Donc voilà, on fait pas mieux, mais on essaie d'accompagner le mouvement et de s'ouvrir à cette nouvelle politique.
D'accord, et ça a lieu quand ce championnat de rapide féminin?
Alors, en général, le championnat de ligue féminin a lieu le troisième dimanche de mars et la Nationale 2 féminine, en général, a lieu en décembre.
D'accord. Alors, on arrive à notre dernier point, hein, qu'on voit dans le podcast et qui, ici, là, et qui nous intéresse toujours fortement, donc sur lequel on va s'apesantir un peu, bien sûr, c'est les jeunes. Bien sûr, les jeunes, ben, c'est les futurs joueurs d'échecs confirmés. Bon, parfois, ils sont même déjà confirmés avant même d'être plus âgé. Donc chez les jeunes, alors comment ça se passe? Alors ce qu'il faudrait, c'est peut-être qu'on ait un calendrier de savoir pour les championnats départementaux quand est-ce qu'ils ont lieu en Pays de Loire, le peut-être le championnat de ligue aussi et puis bien sûr peut-être aller un peu au-delà, nous dire un peu comment ces jeunes se comportent au niveau du championnat de France ensuite.
Alors, traditionnellement, les championnats départementaux ont lieu lors des vacances de la Toussaint ou en marge de ces vacances. Le championnat de ligue, lui, a lieu sur les 4 premiers jours des vacances de février, ce qui laisse suffisamment de temps ensuite pour la ligue et les comités départementaux pour préparer les jeunes. sachant que nous avons des actions de détection puis de formation de nos meilleurs Ligériens. Et par ailleurs, nous finançons une action qui conduit à envoyer sur le terrain lors des championnats de France un maître international qui est Vincent Collin pour encadrer les meilleurs Ligériens et essayer de développer des chances de bien figurer pour ces jeunes Ligériens. Je dois aussi saluer l'implication très croissante des clubs et des comités départementaux. On a constaté, lorsque Sautron malheureusement a quitté le top jeune, le départ de quelques jeunes Ligériens qui sont allés jouer dans d'autres clubs. Je pense à Guillaume Trouvé, par exemple, qui est l'un des meilleurs pupilles actuellement, voilà, qui joue pour Mulhouse. Et c'est toujours dommage de voir des joueurs comme ça quitter les clubs de notre ligue. On a bon espoir de retrouver des joueurs avec la présence l'an prochain du Mans et de Sautron dans le top jeune. Une ligue qui a deux clubs jeunes en top jeune, je crois que c'est assez rare et on en est très fiers et on les félicite.
D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous dire aussi quelque chose sur le palmarès des jeunes en championnat de France? Est-ce qu'il y a des résultats notables que tu pourrais nous citer?
Alors, on a historiquement un résultat notable, c'est celui de Maëlys Rago-Goffreto. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais de mémoire, je crois qu'elle a gagné deux fois le championnat de France Petite Poussine, à chaque fois avec un score parfait. Ensuite, elle est allée jouer dans un autre club, puis elle est revenue dans un club ligérien. On est très, très heureux qu'elle soit revenue en Pays de la Loire. Voilà, c'est une jeune sur laquelle il faut compter. Je pense aussi à un jeune qui est Pierre Barbeau, jeune maître FIDE, vice-champion de France. Malheureusement, l'an dernier, chez les cadets, alors qu'il a archi-dominé, on va dire, les deux tiers du tournoi, et puis malheureusement, le dernier tiers a été plus difficile pour lui. Et puis, vice-champion de France junior cette année. Donc, une belle prestation pour ce jeune qui évolue désormais à Clichy, mais qui a été formé en Pays de la Loire et par Yannick Berthelot. On a, avec Yannick, en Pays de la Loire, un entraîneur vraiment génial pour découvrir des talents et les propulser.
D'accord, donc avec donc des résultats qui font parler du Pays de Loire au niveau national. Alors peut-être alors maintenant peut-être pour conclure, est-ce que au niveau des tout simplement des joueurs seniors, hein, des grands, est-ce qu'il y a des titrés du Pays de la Loire qui sont qui ont été formés ou qui sont originaires du Pays de la Loire, des Pays de la Loire, et qui donc font rayonner, hein, au-delà de la Ligue un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les grands joueurs finalement ou les meilleurs joueurs du Pays de la Loire?
Alors, le meilleur, c'est toujours subjectif, sauf à se focaliser uniquement sur le LO.
Ou qui ont marqué, qui ont marqué.
Il y a une chose à laquelle je pense, c'est Raphaël Delahaye, qui a été championne féminine de France en 1995, voilà, qui est une Sartoise formée dans la Ligue. Maintenant, elle a évolué dans d'autres clubs et j'ai toujours eu en tête cet exemple parce que c'est quelqu'un de très sympathique, Raphaël. Voilà, on a des joueurs, Benjamin Buzichaud, donc qui est maître international, a été formé en Pays de la Loire et plus particulièrement en Sarthe. Donc effectivement, on a quelques joueurs comme ça qui ont eu des beaux parcours et qui continuent d'œuvrer dans nos disciplines et à contribuer à son rayonnement. On suit avec attention la progression de Pierre Barbeau, dont on sait qu'il sera très prochainement maître international.
D'accord. Pour Raphaël Buzichaud, c'est le premier titré international de la Ligue, dans l'histoire de la Ligue, ou est-ce qu'il y en a eu avant?
Alors, je pense qu'il y a dû y en avoir avant, mais c'est vrai que la famille Buzichaud, avec Raphaël et Benjamin, a quand même contribué grandement à l'excellence de la Ligue des Chefs des Pays de la Loire.
D'accord. Donc voilà, donc on a fait un beau tour hein, de ce pays de la Loire. Hein. Je crois que maintenant on a les idées disons, un peu plus claires à la fois hein, sur sa dimension géographique et historique sur le jeu d'échecs, bien sûr, hein, puisque c'est ça qui nous intéresse ici. Donc avec ces tournois que tu nous as rappelés, effectivement, qui comptent, hein, Open de Nantes, Open du Mans, très important, et puis des rapides aussi qui comptent. Hein. Et donc ces résultats chez les jeunes et avec des titres internationaux dans cette ligue, hein. C'est pas le cas de toutes les ligues, hein. Il y a des ligues qui n'ont pas encore hein, pu avoir de titres. Il faut quand même rappeler qu'en France on a des titres internationaux que depuis je crois que c'est 1978 hein, pour il me semble que c'est Aldo Haïk qui a eu avoir son premier titre, c'est peut-être un peu avant, peut-être en 76-77, mais c'est encore assez récent en France bon maintenant on en a beaucoup bien sûr. On a beaucoup plus de grands maîtres et de maîtres internationaux, mais ça reste des cas exceptionnels et des grands champions qui servent de référence pour notamment eh bien, les jeunes joueurs qui veulent s'intéresser au jeu d'échecs. Alors peut-être un dernier mot, Florian, pour nos auditeurs sur les Pays de la Loire, peut-être pour la saison prochaine qui s'avance, ou pour cet été avec le championnat de France qui va avoir lieu à Nîmes. Est-ce qu'il y a un message à faire passer aux licenciés, aux joueurs du Pays de Loire?
Bah écoutez, moi je suis un président extrêmement heureux de la Ligue d'échecs des Pays de la Loire. Il y a une dimension qu'on n'a pas parlé, c'est les arbitres, mais on a deux directeurs régionaux de l'arbitrage qui sont arbitres de la Fédération internationale, que sont Jean-Luc Violot et David Moreau, qui ont fait et qui continuent à faire un travail formidable pour développer l'arbitrage dans notre ligue. Et on en est vraiment très heureux. On va avoir au congrès de Tromsø en Norvège un troisième arbitre de la Fédération internationale dans notre ligue, peut-être même un arbitre international. Donc voilà, ça c'est un secteur aussi qui tourne bien au Pays de la Loire et qui fait de moi et de l'équipe vraiment une équipe très heureuse dans cette ligue. Donc on souhaite tout le meilleur au club et aux comités départementaux pour continuer ensemble à développer le jeu d'échecs dans notre ligue.
D'accord, bah écoute, merci beaucoup hein, Florian de nous avoir accordé hein, cet entretien sur Fréquence Diagonale spéciale, donc Pays de la Loire pour le jeu d'échecs. Moi je vous donne rendez-vous hein, pour un prochain podcast, et puis donc en attendant je vous laisse avec notre générique fétiche hein, sur Fréquence Diagonale, Broken Embraces, et je vous dis au revoir et à bientôt.